18h. Il est 18h.
RJB Info.
Le journal Alexandre Steiner.
Bonsoir. Les Bernois ne veulent pas toucher à l'aide sociale. Ils ont rejeté aujourd'hui le projet de modification du Grand Conseil ainsi que le projet populaire porté par les opposants. On fait le point dans un instant avec le conseiller d'État Pierre-Alain Schneck. La Maison de la Musique peut aller de l'avant à Saint-Imier. Les citoyens ont accepté le projet de transformation de l'ancien manège à une petite majorité. L'étude finale pourra donc être menée. Et à Bienne, quatre objets communaux ont passé la rampe, notamment le réaménagement du quartier de la Gourtelonne et un important projet d'informatique scolaire. Au niveau fédéral, deux oui sont sortis des urnes. Environ deux tiers des Suisses ont accepté la modification de la loi sur les armes et la réforme de l'imposition des entreprises. La fête de lutte du Jura bernois vient de s'achever à Péry. 170 compétiteurs se sont affrontés aujourd'hui. Nous serons en direct sur place dans le Point Sport après le journal. Il sera aussi question de la victoire du FC Bâle et en coupe de Suisse et du prochain match de la Nati au Mondiaux de hockey. Le week-end se terminera sous des averses parfois orageuses. Demain, le temps restera menaçant et il fera 14 à 16 degrés au maximum. La révision de la loi sur l'aide sociale ne convainc pas dans le canton de Berne. Aussi bien le projet du Grand Conseil que le projet populaire porté par les opposants ont été rejetés. Le premier à 52,6% et le second à 56%. On rappelle que le projet du Grand Conseil, soutenu par le conseil exécutif, prévoyait de réduire les montants du forfait de l'entretien de l'aide sociale pour rendre le travail plus attractif que l'aide sociale. Le projet populaire demandait quant à lui que les contributions de l'aide sociale soient déterminées par les normes XIAS et qu'un soutien soit prévu pour les chômeurs en fin de droit de plus de 55 ans. Le directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale prend acte de ce double rejet, Pierre-Alain Schneck.
Pour la première fois, la population de Quimper pouvait s'exprimer par rapport au montant d'aide sociale à verser. Est-ce que l'on veut verser plus, moins ou la même chose? Il a décidé la même chose. Nous mettrons cette solution, bien entendu, en œuvre. Je crois que c'est un point extrêmement important que le peuple ait une fois plus s'exprimer sur l'aide sociale.
Pendant la campagne, vous l'avez dit à plusieurs reprises, votre but n'était pas de démanteler l'aide sociale, mais de rendre le travail plus attractif, de mettre en place plus de mesures d'intégration. Aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à convaincre. C'est un échec quand même personnel à ce point de vue-là.
Pour moi, ce qui est important, c'est que la population ait pu décider. Il est bien clair que c'est dommage que l'aide sociale ne pourra pas être remaniée de manière à la rendre plus efficace, de manière à pouvoir mieux soutenir les personnes dans leurs efforts pour s'intégrer dans le monde du travail. Ça a été une campagne longue, dure, beaucoup d'arguments émotionnels, pas toujours très cohérent, je dirais, mais nous prenons note de la décision de la population et nous continuerons de travailler pour essayer d'améliorer cette situation parce qu'il est tout à fait inacceptable que le canton de Berne ait un taux d'aide sociale nettement supérieur à la moyenne suisse.
Le Parti socialiste bernois, de son côté, déplore le refus de son projet populaire, mais se réjouit du rejet de celui du Grand Conseil. C'est un nouveau signal donné par la population contre les plans de démantèlement des partis bourgeois, écrit le PS dans un communiqué. Et durant la campagne, le comité aide sociale efficace avait dénoncé les mesures inscrites dans cette révision, les qualifiant d'injustes et d'inefficaces. Il avait répété que ce n'était pas en réduisant le montant des aides que les bénéficiaires retrouveraient plus vite un emploi. Dans la région, l'ancien manège de Saint-Imier peut entamer sa nouvelle vie. Les citoyens imériens ont dit oui à la Maison de la Musique aujourd'hui. Par 53% des voix, ils ont accepté de libérer un crédit de 885 000 francs pour financer ce projet. Pour rappel, les ayants droit étaient appelés aux urnes suite au référendum déposé par le Parti Socialiste Imérien. La Maison de la Musique a finalement été acceptée avec seulement 77 voix d'écart. Les porteurs du projet sont-ils déçus par cette faible majorité? Le président de l'association pour une maison de la musique à Saint-Imier, Mario Anoni.
Non, alors pas déçu. Vous savez, dans les projets culturels, c'est toujours difficile d'obtenir des bons résultats ou c'est très difficile de convaincre 70 à 80% de la population pour un type de projet. Donc, à Saint-Imier, il y avait très certainement des gens qui étaient un peu inquiétés par le fait qu'il y a plusieurs investissements qui sont nécessaires maintenant dans la commune qui craignent peut-être que la commune ne soit pas en mesure de les assumer toutes. Et puis ensuite, il ne faut pas se le cacher, on a quand même été confronté à des arguments assez populistes par des personnes qui avaient de la peine quand même à nous dire exactement pourquoi elles étaient contre le projet. Et c'était pour nous d'autant plus difficile de les contrer. Et chaque fois d'ailleurs qu'on voulait débattre avec eux, il n'y avait pas de débat qui était possible parce qu'on nous assénait des vérités ou des contre-vérités. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à convaincre ces gens de changer d'opinion.
Pour les référendaires, ce n'est pas vraiment une surprise que le projet ait passé la rampe. Ils se disent toutefois satisfaits d'avoir pu transmettre leur message. La socialiste imérienne Elisabeth Beck.
Je n'étais pas très optimiste quant au résultat. Par contre, je suis vraiment surprise positivement par le pourcentage de 47%, de près de 47% de personnes qui se sont positionnées pour le contre, en réfléchissant bien aux questions à se poser sur l'aspect financier.
Pour le PS imérien, la page est tournée.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne chose, en tout cas, de constater justement ce fort taux de personnes qui vraiment s'inquiètent. Et puis, je pense que on va faire le maximum pour que ça se passe du mieux possible au niveau financier.
Un dossier réalisé par Martha Duarte. Tavannes pourra construire un nouveau bâtiment scolaire. Les citoyens de la commune ont accepté par 70% des voix de libérer un crédit de 7 240 000 francs pour la réalisation de l'édifice. Il accueillera 4 classes enfantines et 4 groupes de 20 enfants pour l'école à journée continue notamment. À Cormoret, le soutien a été encore plus fort pour aménager l'école enfantine, créer un café et agrandir l'école à journée continue. Le corps électoral a accepté à 82% de rénover les bâtiments de la route principale 14 et 16. Cela se traduit par la libération d'un crédit d'engagement de 1 800 000 francs. Et rénovation également du côté de Crémines où la rue des Rosenières pourra se refaire une jeunesse. Un crédit de 870 000 francs pour permettre la tenue du chantier a été validé par 68% des ayants droit. La ville de Bienne fait un pas supplémentaire vers son objectif. D'ici 2035, les autorités espèrent qu'au moins 20% des logements soient aux mains de maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Aujourd'hui, ce but semble à portée de main. Les Biennois ont accepté à 75% la modification des bases de planification dans le secteur Gourtzelen. Le projet prévoit la construction de logements en coopérative et d'espaces publics. Pour le maire de Bienne, ce résultat n'est pas surprenant. On écoute Eric Fer.
On pouvait l'espérer, oui. La question était surtout de combien sera l'approbation, parce que le concept urbanistique, qui est à mon avis très convaincant, n'est pas la question politique de fond. La question de fond dans ce dossier était que nous avons décidé de mettre la toute grande partie des surfaces à disposition des coopératives d'habitation, donc pour des logements d'utilité publique. Et il fallait voir si cette idée qui nous semble importante pour la mixité sociale de notre ville sera plébiscitée, ce qui est heureusement le cas.
Les ayants droit biennois ont par ailleurs accepté à 78% un crédit de près de 15 millions de francs pour le projet d'informatique scolaire Diana. Il ne s'agit pas seulement d'équipements, mais aussi de moyens pédagogiques prévus dans les plans d'études. Pour le directeur de la formation Cédric Nemitz, la population a bien compris les enjeux.
C'est aussi un signal de soutien, puisqu'il y a de nouveaux enjeux, on a besoin de nouvelles infrastructures et de nouveaux moyens informatiques, et là, la population nous a suivis.
On pouvait s'attendre à un tel résultat, le Conseil de ville avait plébiscité cet objet, et pourtant, vous dites, ce résultat ne coule pas de source.
Non, parce que dans d'autres villes en Suisse, les discussions sont très, très vives autour des moyens financiers mis à disposition de l'informatique. Vous savez que l'informatique, ça coûte très, très cher, c'est amorti en très peu de temps, et donc c'est une grosse charge pour les villes, ça va être une grosse charge pour Bienne, et le fait que les Biennoises, aussi bien au niveau du conseil de ville que maintenant dans la population, aient soutenu cela, c'est vraiment une très belle marque de confiance.
Un dossier signé Anastasia Lirti. Les Biennois ont aussi montré leur attachement à la culture. Ils ont approuvé à 66% la subvention de la ville au théâtre orchestre Bienne Soleur pour les 4 prochaines années, qui s'élève à 16 millions de francs. Il en va de même pour la bibliothèque. 80% des votants ont dit oui à la subvention de près de 8 millions de francs. L'accès aux armes semi-automatiques passera par une autorisation spéciale. 63,7% des Suisses ont approuvé aujourd'hui la révision partielle de la loi sur les armes qui met en œuvre une directive européenne. Les durcissements prévus par le texte ne concerneront pas les chasseurs, les soldats et les jeunes tireurs, mais ils demanderont aux acheteurs de prouver le besoin d'une telle arme pour le sport ou une collection. Les opposants dénonçaient une loi liberticide et contraire à la tradition et critiquaient son inutilité sur le plan de la sécurité. La conseillère fédérale Karine Keller-Souter, conseillère en charge du dossier.
Il y a quand même des améliorations, comme le marquage de toutes les pièces d'une arme à feu, parce que ceci sert à la retraçabilité d'une arme dans un délit, par exemple. Alors la police peut plus facilement détecter peut-être où les différentes parties d'une arme étaient achetées, volées, etc. Et puis de l'autre côté, il y a un échange d'informations amélioré entre les États Schengen concernant les personnes qui n'ont pas le droit d'acquérir une arme.
Pour les partisans du texte, le vote de ce jour permet aussi d'éviter une exclusion de l'accord de Schengen et la fin de la coopération policière avec les États signataires. C'est également un oui qui est sorti des urnes pour le deuxième objet de ces votations fédérales, la réforme de la fiscalité des entreprises liée au financement de l'AVS. La RFFA a été acceptée par les citoyens par 66,4% des voix. Parmi ceux qui se sont engagés pour la RFFA, il y a la conférence des directeurs des finances des villes et sa présidente et conseillère municipale biennoise Sylvia Steidley.
Cela nous donne une base pour les négociations futures. Cela positionne les villes par rapport aux cantons afin que des solutions soient négociées conformément à nos attentes, étant donné que nous ne pouvons pas faire des réformes cantonales sur cette base qui toucherait trop la classe moyenne et qui péjorerait finalement le fonctionnement des villes. Nous sommes engagés pour la RFFA et aujourd'hui c'est un oui. On voit qu'on trouve des solutions. Lorsque les villes disent oui, on trouve aussi le soutien populaire.
La RFFA a ainsi été acceptée dans tous les cantons, aux grandes dames des Verts qui s'y opposaient et dénonçaient un marché de dupes. Le coprésident des Jeunes Verts Suisses, le Valaisan Kevin Morisot.
Le fait qu'il y ait ces 2 milliards pour l'AVS a joué un rôle clé dans la réforme. Ça a été l'élément majeur qui a fait que les Suisses ont accepté finalement assez nettement cette nouvelle RFFA. Et c'est une chose qui pour nous quand même est très regrettable. D'une certaine manière, on aurait très bien pu faire voter les deux sujets séparément. Ça aurait été démocratiquement plus correct. Donc les Verts font des compromis, mais quand le compromis s'apparente plus à une compromis, alors à ce moment-là, on s'y oppose. Et en l'occurrence, ce qui nous dérangeait beaucoup, c'est que la différence entre la réforme fiscale qui a été refusée par le peuple en 2017 et celle qu'on a votée aujourd'hui est extrêmement faible.
Le zoo de Bâle n'aura pas d'océanarium. Les citoyens de Bâleville ont enterré le projet aujourd'hui. Sa réalisation nécessitait une adaptation du règlement sur les constructions. Elle a été rejetée par 55% des votants. Le zoo prévoyait la construction d'aquariums de grande taille pour y présenter des espèces animales marines vivant dans les océans et les mers. Le projet était devisé à 100 millions de francs, entièrement financé par des fonds privés. Et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces votations communales, cantonales et fédéral sur rjb.ch.
RJB, il est 18h13.
Sport. La 92e fête de lutte du Jura bernois vient de se terminer. Elle se tenait aujourd'hui et a réuni plus de 170 lutteurs à Péry. On retrouve sans attendre Anthony Montandon en direct sur place. Et est-ce que les premiers résultats sont connus ?
Oui, Alexandre, on a effectivement quelques résultats car la finale s'est déroulée il y a une vingtaine de minutes environ. Et c'est le roi de la lutte 2010, Kylian Wenger, qui a été le plus fort. Il a plié l'ultime passe en moins de 2 minutes environ. Et cette finale aurait dû normalement, pour la deuxième fois consécutive, compter un régional. Le Kyrgyz mondain Lucas Renfer, déjà finaliste l'an dernier à Orvin, était qualifié, mais il a finalement dû renoncer en raison d'une blessure. Au final, c'est son collègue de Sonsbo, Mael Staub, le meilleur représentant du Jura bernois. Il termine avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et ce résultat ainsi que les autres seront à retrouver dans la soirée sur rjb.ch.
Merci Anthony. Le FC Bâle a enlevé la Coupe de Suisse de football pour la 13e fois de son histoire. Il a battu le FC Thun 2-1 cet après-midi lors de la finale qui s'est tenue au Stade de Suisse à Berne. Sevré de titre en championnat depuis 2 ans, le FCB peut se consoler avec ce nouveau titre au terme d'une finale plutôt terne. Les précisions de Marcel Neuenschwander.
Le FC Bâle a d'une manière sauvé sa saison. Cette finale ne restera toutefois pas inscrite dans les annales. Elle a attiré à peine 20 000 spectateurs et les deux équipes se sont livrées avec trop de prudence pour enflammer le stade. Les Rennais ont laissé l'impression de toujours maîtriser les événements. Ils ont ouvert la marque à la 22e minute sur un coup de tête bien placé d'Albian Ayeti, consécutif à un centre millimétré de Valentin Stocker. Pour Thun, le problème a surtout résidé dans son incapacité à créer du danger. Malgré un ballon volontairement abandonné par les Bâlois, l'équipe de Marc Schneider a eu de la peine à l'utiliser convenablement, même dans un dernier quart d'heure de jeu plus débridé. La donne n'a pas vraiment changé quand Dejan Sorgic a réduit le score à moins de 10 minutes de la fin, faisant croire au suspens 4 minutes seulement après le 2-0 inscrit par Fabien Frey.
Avec 13 Coupes de Suisse à son palmarès, le FC Bâle revient à la hauteur du FC Sion, mais il est encore loin des 19 trophées gagnés par Grasshopper. Dans la région, le FC Moutier manque l'occasion de revenir sur le leader de 2e Ligue interrégionale. Les Prévotois ont partagé l'enjeu avec Moutons 1-1 à domicile cet après-midi. Face au premier du championnat, le FCM est revenu au score en 2e période grâce à Samir Nuisser. Après l'ouverture du score des visiteurs en première mi-temps, les joueurs d'Alain Villard restent 3e de la hiérarchie à 5 points de leur adversaire du jour. 4 matchs sont encore au programme dans ce championnat. Un podium pour Steve Gerda. Le cavalier de basse-cour s'est classé au 2e rang du Grand Prix du CSIO 5 étoiles de La Baule. Le numéro 1 mondial n'a été précédé que par la championne du monde allemande Simone Blum. L'Irlandais Darragh Kenny a pris la 3e place du barrage qui réunissait 8 cavaliers. Comme lors de la victoire de la Suisse au Prix des Nations vendredi, Steve Gerda montait Bianca. L'équipe nationale de hockey sur glace veut rebondir au championnat du monde en Slovaquie. Après sa défaite d'hier face à la Suède, la Suisse affronte une autre grande nation ce soir à Bratislava. Place à la Russie à 20h15. Les Helvètes chercheront à surprendre la Zbornaïa pour pouvoir toujours prétendre à la première place de leur groupe. Et ce n'est pas le revers d'hier qui va faire changer d'avis le sélectionneur sur son équipe. On écoute Patrick Fischer.
Je suis quand même très fier de mes joueurs parce qu'on a joué un bon match, mais on a fait trop d'erreurs.
La Russie, c'est un step plus élevé encore désormais?
Oui, je pense que c'est une équipe très dangereuse. Il y a beaucoup de joueurs superstars, mais rien, on doit jouer un autre jeu. On doit jouer avec beaucoup de confiance. Les Russes, ils ne sont pas assez vite comme les Suédoises, mais ils sont techniquement plus forts. Mais pour ça, on doit être prêt. Maintenant, c'est important de récupérer les forces et on va être prêt.
La Russie est la dernière équipe invaincue dans ce tournoi. Qu'importe, la Suisse jouera et clairement pour engranger une nouvelle victoire, l'attaquant Gaëtan Haas.
La Russie, elle a une équipe qui est très, très talentueuse, mais je pense qu'on a de quoi dans l'équipe pour pouvoir les gêner et peut-être les frustrer, ce qui n'a peut-être pas été le cas jusqu'à maintenant.
C'est russe, il y a des grands noms, Ovechkin, Malkin. Quand on est hockeyeur professionnel en Suisse, qu'est-ce que ça représente, des noms comme ça?
C'est des inspirations par rapport à ma jeunesse, parce qu'ils sont quand même un peu plus âgés que moi. Et puis c'est vrai que quand j'étais encore dans les âges juniors, ils étaient déjà excellents en NHL. Donc c'est vrai que c'est des inspirations, mais je crois que dès qu'on entre sur la glace, il faut mettre ça de côté. On a vu l'année passée, on arrivait contre le Canada où il y avait des McDavid en face et on n'en avait rien à faire. Qu'ils étaient là, on voulait juste gagner le match. Et puis c'est clair, c'est cool pouvoir affronter des joueurs comme ça. Mais après, dès qu'on arrive sur la glace, on veut gagner les pucks, on veut gagner le match.
Un dossier réalisé par notre envoyé spécial à Bratislava, Mathieu Schaffner. Suisse-Russie, c'est ce soir à 20h15. Dans le même temps, la France se frottera à la Finlande. Et deux rencontres sont sur le point de se terminer en Slovaquie. Dans le groupe A, il y a actuellement 2-1 pour les États-Unis contre l'Allemagne. Et dans le groupe B, la République tchèque est en train de fesser l'Autriche 8-0.
Et vous pouvez retrouver toute l'information en continu sur notre site internet rjb.ch.
Un ciel menaçant et des averses parfois orageuses, c'est le programme météo de cette fin de journée. Des coups de tonnerre ne sont pas exclus. Demain, le temps restera nuageux avec des précipitations peu fréquentes. Les rares éclaircies ne dureront pas. Et en ce qui concerne les températures, il fera 8 à 10 degrés au réveil. Au meilleur de la journée, les thermomètres afficheront 13 degrés à Saint-Imier, 14 à Tavannes-et-Tramelan, 15 à Moutier et 16 à Bienne-et-la-Neuveville. Une petite amélioration est prévue pour mardi avant le retour d'un temps assez ensoleillé mercredi.